Je vous invite à faire une lecture, donc, dans le livre de Jérémie. Première lecture, Jérémie, au chapitre 18 et au verset 1. Jérémie, chapitre 18 et verset 1. Mon cœur bat fort, mais c'est pas parce que j'ai peur de vous. C'est parce que je réalise la charge qui m'est donnée ce matin. Alors je vous demanderai d'incliner encore vos fronts pour pouvoir réclamer au Seigneur sa grâce. Amen. Seigneur Jésus, ce n'est pas des petits mots. Ce n'est pas un petit Seigneur que je dis dans mon cœur. C'est un grand Seigneur. Parce que tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et c'est à toi que je demande du secours encore. Oui, toi qui as tout donné, qui as tout accompli à la croix. Encore, fais-nous bénéficier de cette victoire que tu as remportée. Encore ce matin. Que nos vies, que ces instants nous servent à aller de plus en plus proche de toi, de plus en plus près de ta volonté, Seigneur, à viser de plus en plus juste dans nos prières et à viser de plus en plus juste selon ta volonté pour l'accomplir. Que ton nom soit béni pour le secours que tu m'as nous accordé à chacun dans la tâche qui nous incombe. Que ton nom soit glorifié et béni. C'est vrai, Seigneur, je pense à ceux qui ont réclamé la prière parce qu'ils sont malades, la tante à Sarajine, Monsieur Pétranier, tous les autres, Seigneur, secours-les aussi. Là où ils sont, bénis-les, guéris-les, on l'a entendu, tu guéris. Que ton nom soit béni pour ce que tu vas faire, je crois. Amen. Donc nous lisons. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi, vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Amen. On continue dans l'Épître aux Romains, au chapitre 9. Romains chapitre 9 et verset 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et dans 2 Timothée, au chapitre 2 et au verset 16, 2 Timothée chapitre 2, verset 16, dernière lecture pour introduire ces moments, 2 Timothée 2, 16, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. On continue au verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Les trois lectures que nous avons faites nous montrent que dans la parole de Dieu, Dieu lui-même se compare à un potier. Il se compare à un potier qui va, avec un tour, qui va façonner un vase, qui va faire de nous, faire de son peuple, faire aussi de chacun d'entre nous, personnellement, pour notre part, un vase. Et je vous pose cette question, est-ce que vous voulez être un vase d'honneur dans la maison du potier, dans la maison de Dieu, ou être un vase d'un usage vil? Ah. Je me doutais de cette réponse. Ce matin, je n'aimerais pas forcément parler du vase en soi. J'aimerais parler de ce qu'il va contenir. On veut tous être des vases d'honneur. On sait ce qu'il nous faut faire. Et j'ai parcouru la Bible un petit peu, avec la concordance, en cherchant un petit peu tous les endroits où il était parlé de vase et de ce qu'on y mettait dedans. Qu'est-ce que vous voudriez qu'il y ait dans vos vases, à vous? Une belle maison. Tiens, moi, dans ma vie, je voudrais une belle maison. Dans mon cœur, je voudrais une belle maison. Vous voudriez peut-être un beau billet. À l'époque, on disait un billet vert. Qu'est-ce que vous voulez? Beaucoup d'argent? Un diplôme? Un bon travail? Qu'est-ce que vous voudriez que Dieu mette dans vos cœurs? Qu'est-ce que vous voudriez qu'il y ait dans vos cœurs, dans votre vase que vous représentez? Pour Dieu aussi. De quoi veut-on qu'il soit rempli? Et on va voir 5 choses qui peuvent remplir notre vase. 4 que j'espère remplira votre cœur, vos vases, mon vase. Le premier, c'est la parole. Un vase rempli de la parole de Dieu. Le deuxième main, un vase, eh bien, où il y a le sang de Jésus. Il y a ce souvenir du sacrifice de Jésus à la croix. Le troisième, un vase rempli d'huile, rempli d'Esprit Saint, avec l'onction du Seigneur. Le quatrième, eh bien, un vase rempli de parfum, de louange, d'adoration pour Dieu, de reconnaissance. Ces quatre choses. Et le cinquième, je le garde pour moi, et on en parlera à la fin. Premièrement, un vase rempli de la parole de Dieu. Dans Exode, au chapitre 16, au verset 32, on peut le lire. Exode 16, verset 32, Moïse parle. Exode 16, 32, Moïse parle et dit « Voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'un homère rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. » Et Moïse dit à Aaron « Prends un vase, mets-y de la manne, plein un homère et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. » On voit que dans le coffre qu'il y avait dans le temple, eh bien il y avait ce vase qui servait de témoignage, rempli de la manne. Et on l'a encore vu dans le chant, je crois que Janson en a un peu énuméré quelque chose, la manne, le pain qui descendait du ciel. C'était cette nourriture, cet enseignement que Jésus allait donner. C'était ce qui allait faire vivre le peuple. Et Jésus pouvait dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est dans Jean 6 que on voit, à partir du verset 49 au verset 59, Jésus lui-même qui donne cet enseignement, qui dit, mangez ma chair, buvez mon sang, mangez-moi, en quelque sorte. Et là, on l'a vu avec M. Olé, il ne parle pas de la Sainte Cène, il ne parle pas de ce symbole, de ce repas-là. Il parle de l'enseignement qu'on doit recevoir, celui qui reçoit mes instructions, mes paroles, disait Jésus, il vivra. Celui-là, celui qui reçoit ma parole. Il y a d'autres textes dans la parole de Dieu, par exemple dans Proverbes, chapitre 23, verset 12, « Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. » Un autre texte aussi dans la parole disait que la parole soit abondamment au milieu de vous, parmi vous. Qu'on soit rempli de la parole de Dieu. Est-ce qu'on connaît la parole? Ou est-ce qu'on récite ce qu'on a entendu, simplement? Est-ce qu'on médite la parole de Dieu? Quelquefois, c'est vrai, pendant un temps, on croit quelque chose et on s'égare. Ce n'est pas ça, la vérité, parce qu'on l'a entendu. Et on nous a toujours enseigné ça, ça s'appelle la tradition. Et si on ne vérifie jamais, si on ne médite pas la parole, on ne tombera jamais sur la vérité. On n'aura aucune occasion de savoir ce que dit vraiment Dieu dans sa parole. Avons-nous soif d'être remplis de la parole de Dieu, de la connaissance de Dieu au travers de ce que la parole de Dieu nous enseigne? Est-ce qu'on a soif d'être remplis de cette manne, ce bon pain? Jésus nous dit de prier, hein? Donne-nous notre pain quotidien. Je pense qu'il y a une nourriture physique aussi. Dieu nous demande de prier pour notre corps, de recommander à Dieu nos besoins, tous nos besoins. Mais il y a aussi ce pain dont on a besoin, cette nourriture spirituelle que Dieu veut nous donner. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Ça ne veut pas dire je vais te donner de quoi parler. C'est-à-dire ouvre ta bouche, je vais te nourrir. Je vais te nourrir. Et c'est ça qu'il nous faut avoir soif aussi. Est-ce que votre vase est rempli de la parole de Dieu? Il y a une autre image dans l'Ancien Testament, c'est ce bassin qui était là dans le tabernacle, un bassin rempli d'eau avec des miroirs au fond. Et cette eau représente la parole de Dieu, parole vivante. Et dans Jean au chapitre 2, il y a le premier des miracles que Jésus fait. Prenez-le avec moi, Jean chapitre 2 et verset 6. Premier des miracles, c'est aux noces de Cana. On se souvient, il y a les noces donc, et il y a un manque de vin. Ils n'avaient pas prévu assez de vin et ils se retrouvent sans vin. Jésus est invité, alors la mère de Jésus vient et elle lui dit, on peut lire au verset 5, Marie dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Donc elle vient voir Jésus et elle lui dit, voilà, il n'y a plus de vin. Et puis Jésus lui répond et puis elle va dire, bon allez, les serviteurs, écoutez, faites ce qu'il vous dira. Verset 6, or il y avait là 6 vases de pierre. Destiné à quoi? Aux purifications des Juifs. Vous savez que rien n'est écrit au hasard dans la parole. Si c'est précisé que c'est des vases qui servaient aux purifications, c'est bien que derrière ce miracle, qu'il y a eu lieu, il y a aussi quelque chose peut-être qui peut nous enseigner, qui peut nous parler. Il y avait des pierres qui servaient aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs avaient puisé l'eau, le savait bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'en est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Voyez, il y a cette image pour la purification dans ces vases qui servaient aux purifications des Juifs. Jésus a dit « Remplissez d'eau ». Et juste après, cette eau s'est changée en vin. Et dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, on voit qu'il y a deux choses qui servent à la purification. À nous laver. C'est pas le baptême dans l'eau. Ça, c'est sûr. Mais c'est l'eau de la parole qui nous sert à nous laver, à nous purifier. Et il y a aussi, deuxième chose, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et la deuxième chose dont on doit être rempli, c'est de se souvenir de cette assurance que le sang de Jésus nous lave de tout péché. Il y a là les deux images rassemblées. J'aimerais qu'on lise un autre texte qui m'a rappelé encore ce miracle. Dans Lévitique, chapitre 14, au verset 49. On a vu la semaine dernière, M. Go a parlé des maisons atteintes de la lèpre. Lévitique 14, verset 49. Comment il fera pour purifier la maison? Il prendra pour purifier la maison 2 oiseaux, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Il égorgera l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra le bois de cèdre, l'hysope, le cramoisi et l'eau et l'oiseau vivant. Il les trempera dans le sang de l'oiseau égorgé dans l'eau vive et il en fera 7 fois l'aspersion sur la maison. Il purifiera la maison avec le sang de l'oiseau, avec de l'eau vive, avec l'oiseau vivant, avec le bois de cèdre, l'hysope et le cramoisi. Il lâchera l'oiseau vivant hors de la ville dans les champs. C'est ainsi qu'il fera pour la maison l'expiation et elle sera pure. Il y a ce vase qui était là, on mettait de l'eau, il y avait de l'eau vive dedans, et puis on va prendre un des 2 oiseaux, on va l'égorger. Et le sang de l'oiseau va couler, va tomber dans ce vase avec l'eau vive. Et on prend l'oiseau vivant, on le trempe dedans, on fait l'aspersion, en tout cas, on fait l'aspersion, et puis on le relâche. Ces oiseaux représentent Jésus qui va mourir, il y en a un qui va mourir. On ne peut pas faire ressusciter un oiseau, alors on a pris 2 oiseaux, mais ils représentent tous les 2 Jésus. Il y en a un qui va mourir, qui représente la mort de Jésus. Son sang qui va couler, mêlé à cette eau. Et avec cette eau et ce sang, il y aura l'aspersion sur le 2e oiseau. Et cet oiseau qui va être relâché dans les champs, qui va s'envoler, c'est la résurrection de Jésus. Jésus qui ressuscite. Et c'est comme ça qu'il y a la purification de la maison. Ces 2 images. Alors le sang, oui, le sang de Jésus. Est-ce que dans notre cœur, on a toujours cette attention, cet amour pour Jésus parce qu'il a versé son sang à la croix pour nous purifier de tout péché? Est-ce qu'on est toujours reconnaissant? Est-ce qu'on est imprégné de cette notion que ce n'est pas nos efforts qui vont nous pardonner nos péchés? Ce n'est pas un voyage, un pèlerinage que je vais faire qui va m'expier mes péchés ou qui va faire que je vais être pardonné. Mais c'est le sacrifice de Jésus qui me donne de pouvoir être pardonné. C'est son sang qui a été coulé, qui me lave de tout péché. Et aujourd'hui, je continue à être lavé par l'eau de la parole. Je continue à être purifié chaque jour. Le sang, un vase rempli de ce souvenir, plein d'espérance et de foi dans le sacrifice de Jésus. Troisièmement, c'est un vase rempli d'huile. Dans la parole de Dieu, il y a des vases qui sont remplis d'huile. Dans Éphésiens 5, 18, il est dit « Soyez remplis du Saint-Esprit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit ». Dieu nous demande toujours d'être remplis de son Saint-Esprit. Comment est-ce que je peux être rempli du Saint-Esprit? Question. Je crois que le seul moyen, c'est de chercher la face de Dieu, de m'approcher de plus en plus de lui, le chercher à avoir soif de lui. Souvent, on demande à Dieu, donne-moi soif. Il va être obligé de nous emmener dans un désert. C'est dangereux comme prière. Je crois que la soif, il faut soi-même avoir soif. On choisit de quoi on a envie. C'est pas vrai? Quelquefois, il y a des désirs qui viennent, etc. Mais s'ils sont pas bons, il faut savoir les maîtriser. Dieu nous donne la maîtrise de soi. Et on peut choisir de quoi on a soif, de quoi on a besoin. Et je crois qu'il faut avoir soif de la parole, soif de se souvenir du sacrifice de Jésus, soif de sa présence chercher la face de Dieu. Plusieurs personnes me disent, mais comment être baptisé dans le Saint-Esprit? Je dis, mais cherche la face de Dieu. Comment ils ont fait les premiers? Ils ont jeûné, prié, ils ont attendu la promesse. Tant qu'elle n'était pas là, ils l'ont attendu. Ils ont attendu. D'autres personnes n'ont même pas eu à attendre. C'est venu. Mais ils ont demandé à Dieu dans la prière. Dans un moment de communion. D'autres personnes, ils ont rencontré le Seigneur. Et puis, ils avaient une vie qui était continuellement en recherche avec Dieu. Et ils n'étaient pas forcément à genoux en train de prier. Mais dans un moment commun de la vie, en conduisant, peu importe, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Je crois que c'est un des deux dieux, un des frères de Dieu, qui a dit que c'était en train de repeindre la façade ou de récrépir la façade d'un bâtiment. Qu'il a été rempli du Saint-Esprit. D'autres personnes, c'est en conduisant, il y a toutes sortes, il n'y a pas d'endroit spécifique, il n'y a pas de recette magique. Je crois que c'est en ayant soif de Dieu, que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Voilà, c'est tout. C'est une question de désir, aspirer. Si vous n'avez jamais vécu ce que c'est que le baptême dans le Saint-Esprit, eh bien cherchez, ça vaut le coup, ça vaut la peine. Si quelqu'un a déjà vécu mais qu'il a laissé ça, c'est tiolé, hein, c'est comme une lampe, l'huile, elle est consommée au fur et à mesure. Il faut tout le temps constamment revenir au pied de Dieu pour être renouvelé, re-rempli, puiser auprès de Dieu, dans sa présence, le Saint-Esprit, l'huile qu'il nous faut. Des vases d'huile, c'est dans Matthieu 25, Matthieu chapitre 25, au verset 1, vous connaissez cette parabole. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Et on sait la suite, c'était trop tard. C'était trop tard. Est-ce que notre vase est rempli d'huile? Souvent on dit, est-ce que votre lampe est remplie d'huile? Mais en fait, c'est les vases, parce que la lampe à elle-même, elle ne suffit pas. Ils avaient des vases remplis d'huile à côté. Ils avaient des vases remplis d'huile. Est-ce que votre vase est rempli d'huile? Et vous... Vous pouvez peut-être dire, mais moi, j'ai un peu d'huile, j'ai pas beaucoup, j'ai un peu goûté, mais je n'ai pas l'habitude, etc. Dieu, si vous avez soif, si vous venez à lui, il va vous donner tout ce dont vous avez besoin. Il peut même multiplier l'huile. Ça vous rappelle quelque chose? Dans 2 Rois, chapitre 4. Une veuve, elle perd son mari, puisqu'elle est veuve. Et le mari la laisse avec des créances. Les créanciers arrivent et lui demandent donc l'argent, de la dette. Cette veuve dit, j'ai rien du tout. Puis elle fait appel à l'homme de Dieu. Elle lui présente son cas, son problème. Et l'homme de Dieu lui dit, va demander autant de vases que tu peux. Va demander une multitude, et pas un peu, beaucoup. Il précise, pas un peu, beaucoup. Et elle va, elle va, elle va, et puis elle rassemble. Et puis il dit, quand tu seras dans ta maison, tu t'enfermes, tu fermes la porte derrière toi avec ton fils. Et puis tu verseras avec le pot que tu as, le vase que tu as déjà, il lui restait plus qu'un seul vase. Avec ce vase-là, tu remplis les autres, tu multiplies, tu remplis. Elle le fait, puis arrive un moment où il n'y a plus de vases. Tous les vases sont remplis, et ça s'arrête. Dieu nous donnera ce dont on a besoin. Il n'en manque jamais dans les réserves du ciel, de l'huile. Et personne ne pourra dire, c'est pas ma faute si j'ai pas assez d'huile. C'est pas ma faute si j'ai pas été assez inspiré, c'est vrai. C'est pas ma faute si j'ai jamais la force de résister à Satan. Parce que je crois que si Dieu veut nous remplir dans le Saint-Esprit, c'est pour nous équiper, pour être des témoins fidèles, mais aussi pour arriver à résister au diable. Personne ne pourra dire « c'est pas ma faute » parce que dans le ciel, il y a des réserves suffisamment pour tout le monde, en abondance. Et il tient à chacun de nous, d'entre nous, d'aller remplir son vase. Ses vases s'il le faut, je ne sais pas, son vase en tout cas. Remplir sa vie, son cœur, tout le temps, dire « Seigneur, voilà, tu n'es pas encore revenu, je viens, je viens. Je viens à toi pour que mon vase soit constamment rempli. » Quatrièmement, la louange, est-ce que votre vase, votre cœur déborde de louange, d'adoration, de reconnaissance pour le Seigneur, pour ce qu'il a fait? On a parlé du sang, il faut garder la foi dans l'efficacité du sang. Hier, une jeune fille me disait, mais moi, quand je tombe, quand je chute, quand je pêche, j'ai vraiment beaucoup de mal à me relever. J'ai l'impression, presque pendant un temps, il faut que je reste par terre, comme pour expier encore un peu son péché, vous voyez. Quelquefois, on a du mal à se relever, on dit, mais je ne peux pas revenir devant Dieu, je ne mérite plus. Est-ce que c'est pas un peu douter de l'efficacité du sang de Jésus? Parce qu'après tout, le fait qu'on tombe, ça nous montre bien qu'on doit dépendre de Dieu et que sans lui, on n'est rien. Même si on a acquis le salut en Jésus, on peut le perdre très rapidement si lui nous abandonnait. Mais il nous a promis de jamais nous abandonner. Il a promis d'être là, à nous de ne jamais lâcher sa main. Lui, il ne la lâchera jamais. Mais si on veut plus de lui, il ne va pas nous forcer. Alors à nous de dépendre de lui, de rester attaché à lui. Il faut toujours garder la foi dans le sang de Jésus, mais il y a aussi la reconnaissance. On utilise souvent cette histoire de 10 lépreux qui sont venus à Jésus. Il y en a qu'un qui est revenu. Et on dit, il y en a qu'un qui est sauvé. En vrai, le texte, il parle surtout qu'il y en a qu'un qui a été reconnaissant. Les 10 ont été au bénéfice, en tout cas, de la miséricorde de Dieu quant à leur maladie. Mais il y en a qu'un qui a été vraiment reconnaissant, qui est revenu vers Jésus. Et il nous faut apprendre à ne pas être des enfants ingrats. Ça vous embête pas quand vos enfants disent pas merci? Moi, quelquefois, je dis, et alors, qu'est-ce qu'on dit? Il me regarde, il fait, sss. Voilà. Et si on sait le dire à nos enfants, nous qui sommes les enfants de Dieu, apprenons à être reconnaissants, à dire merci Seigneur. Et aussi à le louer, l'adorer, apprendre à le reconnaître comme notre Sauveur, notre Seigneur, lui rappeler qu'il est bon pour nous, lui dire qu'il est bon, qu'on le remercie, c'est bien aussi, mais lui dire oui, je te reconnais aussi comme le Maître. Et même au-delà de tout ce que tu as déjà fait, je te dois l'adoration. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu as tout créé, tu es grand. Je te dois l'adoration. Tu adoreras, tu serviras le Seigneur ton Dieu. Et lui seul. De tout notre cœur, nous devons le faire. Dans Apocalypse, chapitre 1, verset 6, il est dit « À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. » C'est à lui que doit revenir toute notre adoration. Ne nous prosternons pas devant notre télévision, devant toutes sortes de choses qui pourraient prendre la place de Dieu. N'allons pas voir un guérisseur, n'allons pas voir un marabout, une voyante, etc. Celui qui tient votre avenir dans ses mains, en tout cas qui veut le tenir, c'est le Seigneur Jésus. Et il peut le faire. Il est puissant. Il a tout accompli déjà. À nous de croire et de lui faire confiance, d'avoir foi en lui. N'allons pas voir d'autres. N'allons pas vers d'autres bénisseurs, tout ce qu'on veut. Ça ne sert à rien. On a celui qu'il nous faut. On a le seul d'ailleurs qui puisse faire quelque chose de bon pour nous, de bon et de durable. Les hommes peuvent nous rendre service. Merci Seigneur pour la famille de Dieu. Merci Seigneur pour M. Olé, pour les instructions. Merci Seigneur pour chacun d'entre vous, pour les prières que vous faites monter, en faveur les uns des autres, en ma faveur. Merci Seigneur pour la famille. Mais celui qui peut faire absolument tout ce qu'il me faut, qui peut prendre soin de moi pour l'éternité, en qui je peux avoir absolument confiance, qui ne me trahira jamais, qui ne m'abandonnera pas, c'est le Seigneur Jésus. Et c'est mon Père. Il veille sur moi. Il prend soin de moi. Des vases de parfum. On se souvient dans Matthieu 26, versets 6 à 16, à 13, pardon, le vase d'albâtre qu'a répandu cette femme en reconnaissance. Ce vase qu'elle a répandu sur Jésus. Ce vase d'albâtre nous parle d'un vase de grand prix. C'est pas un petit vase avec un parfum bon marché. C'était un vase de grand prix, au point que Judas, qui piquait dans la caisse, a commencé à dire, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu vendre ce vase-là? Il aurait plutôt servi aux pauvres. Lui, il pensait plutôt à lui, hein. Ça l'a perdu, on sait. Mais ce vase était de grand prix. Et souvent, à l'époque, les jeunes filles avaient ce vase, elles le gardaient et elles le vendaient pour assumer leur mariage. Ou s'il y avait un grand besoin dans la famille, elles le gardaient et elles le vendaient pour ça. Pour faire vivre la famille s'il y avait un grand besoin. C'était quelque chose qu'elles avaient dans les familles qui pouvaient se le permettre. Parce que c'était un vase de grand prix. Et pour l'ouvrir, il fallait le casser. C'était quelque chose qu'il fallait casser. Et cette femme, elle est venue, elle l'a offert à Jésus. Elle lui a fait confiance pour son mariage. Elle lui a fait confiance pour son avenir. Même si elle aurait pu garder l'argent pour elle, est-ce qu'on n'a pas toujours besoin d'argent? On n'en a jamais assez des fois, hein. Mais avec Dieu, on a plus que l'argent et l'or. On a celui qui l'a créé. Donc on sait qu'il peut tout faire. Il peut pouvoir à tous nos besoins. Elle a eu confiance et elle... Jésus va dire, mais partout où on sera raconté, partout où il sera prêché l'évangile, eh bien il sera raconté ce qu'elle a fait, cette femme. Sur toute la terre, aujourd'hui, on entend parler de cette femme, ce qu'elle a fait. Et il dit, elle a fait ça pour ma sépulture. Ça nous rappelle que le sacrifice de Jésus aussi, c'était un sacrifice de bonne odeur aussi. Il y a eu le sacrifice pour nos péchés, mais dans ce sacrifice qui était parfait, qui a englobé tous les sacrifices, il y avait aussi une action de grâce, une adoration à Dieu. Il y avait une offrande volontaire à Dieu. Il y avait la consécration de Dieu, de Jésus. L'entière soumission de Jésus à son Père, l'obéissance jusqu'à la mort. Et ce parfum qui est répandu, parfum de bonne odeur, de bonne odeur. Est-ce que dans notre cœur, il y a un parfum de reconnaissance qui monte vers le Seigneur? Est-ce qu'il y a ce parfum d'amour, d'adoration, de louange qui monte de nos cœurs vers le ciel? Je le souhaite. Et le cinquième point, je vous invite à lire dans Nombre, chapitre 19 et verset 15. Nombre 19 et verset 14 même. Voici la loi lorsqu'un homme mourra dans une tente. Quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Vous l'avez ? Tout vase découvert sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché sera impur. Quiconque touchera dans les champs un homme tué par l'épée ou un mort ou des ossements humains ou un sépulcre sera impur pendant 7 jours. Je lis 3 versets, celui qui précède, le verset qui nous intéresse avec le vase et le verset suivant. J'aimerais qu'on comprenne quelque chose. C'est que si nous sommes comme des vases appartenant à Dieu, nous vivons dans un monde où la mort règne, la mort spirituelle, comprenez ce que je veux dire. Et là, il est dit que tout vase qui sera découvert sur lequel il n'y aura point de couvercle sera impur lorsqu'il est entouré de la mort, dans un contexte de mort. Et ça me rappelle quelque chose. C'est que même si j'avais le meilleur des dépôts dans mon vase, même si j'étais le vase le plus honorifique pour le Seigneur, si jamais une petite mouche rentrait dans l'huile, elle corromprait toute l'huile. Vous connaissez ce texte? C'est dans Ecclésias chapitre 10 et verset 1. On va le lire. Ça veut dire qu'il nous faut être ouvert à certaines choses et absolument être fermé à d'autres choses. Ne pas laisser rentrer quelque chose de mauvais dans notre cœur. Je pourrais avoir la meilleure onction que je veux. Je pourrais avoir la meilleure louange que je veux. Je pourrais avoir la plus grande foi dans le sacrifice de Jésus, être le plus fervent, tout ce que je veux. Je pourrais avoir la plus grande connaissance, connaître la Bible par cœur sur le bout des doigts. Si je laisse une petite mouche demeurer dans mon vase, ça corromprait tout le reste. Vous connaissez ce chant pour enfants ? Toc, toc, toc. Quelqu'un frappe à ma porte, toc, toc, toc. Quelqu'un voudrait entrer, c'est le mal qui voudrait une place. Mon fils lui dit alors, il dit non, 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 mon cœur lui est fermé. Toc, 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 quelqu'un frappe à ma porte. Toc, 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 quelqu'un voudrait entrer. C'est Jésus qui veut toute la place. Oui, 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 Seigneur, tu peux rentrer. Il y a certaines choses qu'il faut accepter. Il y a certaines choses dont il faut avoir soif. Mais il y en a d'autres qu'il faut en avoir en horreur. Le péché, il faut l'avoir en horreur. Il ne faut pas que ces choses rentrent. Vous l'avez avec moi donc dans Ecclésiaste. Excusez-moi. Ecclésiaste chapitre 10 et verset 1. Les mouches mortes, une autre traduction dit vénéneuses, tiens, infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Qui c'est l'auteur de l'Ecclésiaste ? Salomon. Qui c'est l'auteur de quelques proverbes ? Alors, pour savoir ce que c'est que la folie, le fait d'être insensé dont il parle, il faut regarder dans les proverbes. Et on va voir que ce n'est pas une perte d'intelligence ou de capacité à comprendre des choses, c'est une attitude, une manière de vivre. Et un petit peu de folie, un petit peu de négligence dans notre comportement, dans notre manière de vivre, et toute l'huile, tout le parfum, tout le reste risque d'en être infecté et d'être perdu. Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. On a parlé du sang tout à l'heure et à la croix, au pied de la croix, il y avait un autre vase plein de vinaigre. On a voulu en donner à Jésus. Et dans Psaume, je crois que c'est chapitre 69 ou 67, verset 22, il est dit... On me donnera à boire du vinaigre, du fiel amer. Faisons attention à ce que le sang de Jésus, ce vin qui devrait nous procurer de la joie, la mort de Jésus à la croix, ne devienne pas un fiel amer pour juger les autres. Un vinaigre, un vin passé, fermenté, et qui est comme dans nos cœurs, comme de l'amertume. Vous vous souvenez ce qu'on a lu tout à l'heure dans 2 Timothée ? On peut le reprendre pour terminer. 2 Timothée, chapitre 2. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. C'était verset 15. Au verset 16, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. Vous savez, quand on commence à avoir des discussions inutiles, des disputes à cause des opinions, ce genre de choses, malheureusement, ça commence à être comme une gangrène qui vient pourrir dans notre cœur, infecter toutes les bonnes choses qu'on aurait reçues de Dieu. Et ça peut mettre des disputes entre nous. Ça peut mettre des discussions inutiles et même de l'amertume. C'est comme une mouche qui viendrait. C'est comme un péché qui viendrait et qui envahirait tout le reste, non seulement de notre vase, mais tout le reste du corps de Christ. On l'a vu, Israël, le peuple tout entier, était considéré aussi comme un vase que Dieu voulait façonner. Et nous représentons ensemble un vase. Et si l'un d'entre nous laisse une mouche morte, de l'amertume, des disputes, des querelles, des choses comme ça. Dans Galates 5, 19, il est parlé. Il y a le fruit de l'esprit et il y a les œuvres de la chair. Toutes ces choses qui font la guerre à l'âme, qui sont là, qui nous divisent les uns les autres. Ne laissons pas ces choses-là nous diviser, nous séparer. Mais au contraire, confions-nous, demandons au Seigneur tout son secours. Dis, Seigneur, ça, je veux fermer, je veux mettre le couvercle pour que la mouche n'entre pas. Je veux mettre le couvercle. Vous savez, j'ai des poules. Je sais que les mouches, ça vient vite, Un peu de négligence, et hop, on est envahi. Il faut absolument mettre le couvercle. Dis, Seigneur, ça, je n'en veux pas. Aide-moi à ne jamais être tenté d'ouvrir. Tout à l'heure, on a parlé des guérisseurs. Vous savez, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui va être malade, etc. Au bout d'un moment, est-ce qu'il ne peut pas être tenté? Peut-être pas la première fois, peut-être pas la deuxième, mais la troisième dire, allez, je tente. On doit prier les uns sur les autres pour qu'on soit fort. S'il y a l'unité entre nous, on va prendre soin les uns des autres, on va se soutenir. Et c'est vrai qu'on... On va arriver à aller jusqu'au bout. Comme une chaîne, on est des maillons. S'il y en a un qui lâche, eh bien, il y a un souci. On a besoin d'aller ensemble jusqu'au bout. Dieu a fait de nous une assemblée. Il dit, ne quittez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Soyez fidèles. Soyez attachés au Seigneur. Et comme on est tous attachés au Seigneur, eh bien, on va être tous ensemble. On va réussir à être unis. Si on se regarde les uns les autres, on va dire, ah, je suis mieux que lui, je suis mieux que elle. Ou alors, je suis jaloux. Mais si on regarde à Jésus, de suite, on est mis au pli. Et on sait qu'en Jésus, non seulement on sera jamais comme lui, parfait, avec le même mérite, il est au-dessus de tout, il sera toujours notre maître, notre roi, notre Seigneur. Et à la fois, si on se voit trop petit, il dira, prends courage, mon enfant. J'ai payé pour toi. Relève la tête. Amen. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut dans notre vase? Est-ce qu'on veut ces bonnes choses du Seigneur? Est-ce qu'on veut se souvenir de ce que Jésus a fait? Est-ce qu'on a soif de lire la parole? Est-ce qu'on la médite jour et nuit pour que tout ce que nous fassions réussisse pour le Seigneur? Ou est-ce que, on néglige ces choses? Est-ce qu'on aime la prière, la louange, tout ce parfum? Est-ce qu'on aime louer le Seigneur? Est-ce qu'on vient avec joie le dimanche matin et d'autres moments dans la journée, dans la semaine, louer le Seigneur, prendre du temps pour lui, seul, ensemble? Est-ce que c'est dans notre cœur, dans notre vase? Est-ce que toutes ces choses demeurent? Est-ce qu'on a soif d'être baptisé, renouvelé dans le Saint-Esprit? Une église rempli du Saint-Esprit, c'est une église qui marche en vainqueur. On l'a vu dans Acte. Dans Acte, il n'y avait rien qui pouvait les arrêter. Même la dispersion, ça n'a fait que propager l'évangile, la persécution. Alors Seigneur, aide-nous à être remplis du Saint-Esprit, remplis de bons dépôts et à fermer le couvercle à tout ce qui cherchera à nous diviser et à nous séparer de lui. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous enseignes des choses simples. Tu veux que nous avancions avec toi, et moi-même, avec tous mes frères et sœurs, je veux vraiment te renouveler notre engagement à aller plus loin avec toi, à te suivre et à t'obéir. Notre désir, Seigneur, ce n'est pas d'être une armée pour combattre la chair contre la chair et contre le sang, mais Seigneur, simplement d'être tes enfants. Il y a une armée dans le ciel, tu as ouvert les yeux un jour à un serviteur pour qu'il la voie, et ça l'a mis en paix. Il a compris qu'il avait simplement à être un témoin sur cette terre. Fais de nous des témoins. En nous remplissant de ton Saint-Esprit, donne-nous d'être la lumière du monde, le sel de la terre, qui donne soif et qui apporte de la joie, Seigneur. Que ton nom soit glorifié pour ces moments, nous sommes ta famille et nous sommes heureux de l'être. Nous te disons merci pour ton sang qui a coulé à la croix et qui nous a réunis sous ta bannière. Que ton nom soit glorifié, tu nous gardes, tu nous raccompagnes à chacun et tu nous donnes de méditer ces choses encore et d'aller plus loin. Et s'il y avait quelque chose qu'on croyait et qui n'était pas de toi, eh bien dans notre méditation, tu nous diriges, tu nous conduis pour qu'on réalise ce que tu dis vraiment. Que ton nom soit béni. Amen.